Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yomawari, semaine prochaine, pas le choix.
Ah mais oui, du coup, on l'a attrapé complètement, ouais.
Ouais, il est programmé.
Yomawari.
C'est rare hein, qu'on ait, je suis obligé de couper comme ça en pleine émission. Hein,
je sais pas mais... comment tu vas faire. Tu vas rajouter un petit. Parce que t'as pas dit qu'on le sautait. Du coup, tu vas peut-être rajouter une petite phrase, je sais pas quoi.
Ou il sera présent dans la bande-annonce, par exemple.
Il est intelligent. Oh là là, il utilise à 100% les possibilités de son média, mais quel homme.
Mais oui.
Du coup, ça fait 5 jeux hein, la semaine prochaine. Hein.
Ça fait 5 jeux la semaine... Quoi? Ah, putain. Non mais le mois de novembre... Ah non, mais 5 jeux, c'est pas possible.
Ah, puis il y en a d'autres dans iPad. On en reparlera, mais il y a d'autres choses.
Il y en a 4, si t'en rajoutes un, je crois que ça fait 5. Je suis pas bon en maths, mais là...
On a une extension, donc on va se dire que ça va être court parce que c'est un Resident Evil, donc on
oui,
sait qu'on fait rapide.
Ouais, mais il y a des
court,
trucs à dire,
ouais,
il y a des trucs intéressants à dire. Donc,
oui, non, mais je sais, Patrick.
Voilà.
Bon, tu m'en veux pas, hein.
Non, mais
on,
bien
reste,
sûr. Mais
on
non,
reste amis.
J'aurai une demi-heure la semaine prochaine, donc c'est très bien.
Allez, c'est parfait.
Callisto Protocol, je l'avais oublié.
Ah ouais, non, mais c'est dur. Hein.
C'est vrai que la semaine prochaine va être musclé. Hein. Ah, c'est la fin d'année, les amis, c'est comme ça.
Mais oui, mais oui, on était prêts psychologiquement avant le début du mois. La question de la bande-annonce, question simple. Et pourtant. Oui, parce qu'on a fait des questions un petit peu originales, hein. On a essayé, pas tout le temps, mais bon, voilà. Mais là, j'ai eu envie d'aller sur le cœur du sujet, et je vous ai posé cette question. Quel est, selon vous, le meilleur FPS. Et c'est une question où personne ne se doute de la réponse, et c'est pour ça que j'ai envie de lui donner la main tout de suite. Va-t-il nous surprendre? Va-t-il rester dans sa zone de confort? J'ai envie de te poser la question, Patrick. Quel est pour toi le meilleur FPS?
Non, mais je vais pas répondre à le meilleur FPS.
Il y a qu'une seule bonne réponse.
Vous savez très bien ce que je vais vous dire. Je vais pas vous refaire tout l'article sur Doom ou sur Quake, parce que c'est Quake, évidemment. Non, je vais vous parler.
Il a dit le mot.
Voilà, évidemment, c'est difficile de pas évoquer Quake sur une question pareille. Non, je vais faire un peu original. Je vais changer un petit peu.
Allez.
Parce que là, c'est trop téléphoné. Non, je vais vous parler d'un jeu doudou que je suis en train de refaire en ce moment. Ça s'appelle Exhumed, qui était un jeu. Voilà, j'ai la version PlayStation ici, qui date de 1996. Alors, Exhumed, parce que déjà, ça se passe en Égypte, parce qu'on est en Égypte avec une invasion alien et des monstres partout. Exhumed, parce que j'adore le nom du studio qui a disparu, qui s'appelait Lobotomy Software. C'est incroyable, j'adore. Et Exhumed, parce que j'en ai un super souvenir en termes de musique, de gameplay très fluide. Et ce qui est super intéressant sur ce jeu, c'est que donc il était sorti en 96 et que c'était une sorte de pré-Metroidvania, c'est-à-dire que c'était un FPS ouais. Avec différents niveaux où tu avais un personnage qui gagnait des particularités, il pouvait gagner un saut plus haut, etc., qui lui permettait de revenir dans d'autres niveaux, dans des niveaux précédemment visités, d'accéder à des passages en plus. Donc il est quand même sorti, si je dis pas de bêtises, quelques mois avant Symphony of the Night. Donc c'est une sorte de prototype comme ça de jeu en mode Metroidvania. Et qui reste très très agréable à jouer. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que j'ai un peu replongé dedans. Il y a un remake qui est ressorti. Non, c'est pas un remake, un remaster. Et un remaster plutôt malin qui a été piloté là, c'est par le studio Night Dive. Alors Night Dive, c'est vraiment les grands spécialistes du genre. C'est-à-dire que c'est eux qui ont dépoussiéré Quake, qui ont dépoussiéré tous les derniers jeux id Software, les Doom, etc. Donc ils savent très bien faire du remaster très propre et plutôt fin. C'est-à-dire que on chamboule pas le matériau originel, par contre on le nettoie, on le polish. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est un objet en termes de remaster assez particulier, parce qu'en fait ils ont pris dans le shaker, ils ont pris la version Sega Saturn qui était très particulière avec des effets de lumière, etc. Ils ont mélangé avec la version PSX PlayStation d'origine, je crois même qu'il y a du PC, et ils ont pris le meilleur de tout pour faire, voilà, pour nous donner une version qui est finalement aujourd'hui qui est très proche du souvenir qu'on en a. Par contre, qui intègre différentes composantes comme ça de différents portages. Et ça fonctionne très bien. Et c'est un vrai plaisir à rejouer. J'adore ce titre. Avec des particularités là sur cette ressortie, donc on a les musiques d'origine qui sont enfin que j'adore vraiment, j'ai des souvenirs de ce jeu. Le gameplay qui est toujours très nerveux et la VF d'époque qui est restée, qui est toujours là. Donc vraiment, moi je m'éclate à refaire ce Exhumed qui s'appelait Power Slave aux États-Unis et que j'aime beaucoup. Alors c'est peut-être pas le meilleur FPS, mais c'est mon FPS du moment que je refais avec beaucoup de plaisir. Et mais bon, évidemment, sinon c'est Quake. Mais voilà, je voulais parler d'Exhumed ce matin, aujourd'hui, parce que voilà, je le refais et je prends toujours autant de plaisir à le reparcourir actuellement.
Corentin.
Merci de nous avoir exhumé ce jeu. je suis... ouais, moi, les mots, je maîtrise. du coup, le... j'ai réfléchi un petit moment parce qu'en fait, je ne suis pas non plus le plus grand consommateur de FPS au monde. Et en fait, je voulais pas sortir non plus GoldenEye parce que c'est peut-être l'autre, éléphant dans la pièce, c'est peut-être l'autre énorme truc qu'on a envie de dire parce qu'il a un peu révolutionné le genre sur console. Alors, je voulais parler d'un de ses successeurs, un des successeurs de GoldenEye finalement spirituel. Alors, c'est pas Perfect Dark, mais c'est Time Splitters 2. Time Splitters 2 que j'avais joué à l'époque sur GameCube et qui vraiment a représenté parmi mes heures de multijoueur local les plus palpitantes avec mes amis, les plus fun, les plus amusantes de ma vie de jeune joueur, quoi. Vraiment les week-ends ou les journées après collège où on rentrait à la maison pour jouer à Time Splitters 2 et se mettre pour se mettre des roustes à ce jeu qui vraiment était excellemment bien fait dans tout ce qu'il avait à proposer au-delà de son mode histoire. Déjà, son mode histoire était chouette. C'était une histoire un peu cartoonesque de voyageurs dans le temps qui allaient dans différentes époques pour empêcher une invasion extraterrestre temporelle, je crois. Je me rappelle plus très bien du contexte. Mais du coup, on se retrouvait à la fois dans le futur, à la fois dans le passé. Il y avait une section à Notre-Dame, je me rappelle. Il y avait une section dans le Far West. Il y avait une section... j'ai un peu oublié... dans le Chicago aussi, dans un espèce de Chicago de la Prohibition. Ce genre de choses. Et du coup, c'était très varié, très cartoon, très coloré, très chouette. Ça se prenait pas du tout au sérieux. Mais en même temps, tu sentais qu'il y avait l'ADN GoldenEye qui était très présent.
Le gameplay était évident.
Le gameplay, c'était du GoldenEye, mais dans le texte, mais vraiment très fort. Et tu avais le même système de santé avec ces barres là, très caractéristiques sur le côté de l'écran. Et puis le mode multi, qui était incroyable. Donc évidemment, à 4 autour de la télé. Donc évidemment, on regardait l'écran du voisin pour
normal.
La base. Hein. Et surtout, mais quelle richesse ! Il y avait un éditeur de niveau pour un jeu GameCube, PlayStation 2, Xbox, là. Un éditeur de niveau, quoi. C'était incroyable. Tu avais 15 modes différents. Il y avait un mode qui était trop marrant où tu avais un ennemi qui prenait feu. et il fallait le toucher, c'est un loup en fait, c'est un loup. Si tu touchais un autre ennemi, si t'avais un contact avec lui, il prenait feu aussi, mais ça lui passe pas le feu. C'est-à-dire tout le monde prenait feu. Et le but du jeu, c'était le dernier à pas être en feu. C'était très 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 marrant, quoi. Le mode contagion, je crois que ça s'appelait, mais c'était vraiment rigolo. T'avais évidemment les modes capture the flag, tout ça. Vraiment très 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 complet. Ouais, c'était une suitcase, je crois, dans GoldenEye, un truc comme ça. Mais voilà, extrêmement complet. Ça m'a vraiment égayé mes parties multijoueurs locales sur cette génération de consoles là et je crois que j'ai pas retrouvé un FPS aussi fun sur console, en tout cas c'était la fin, c'était aussi peut-être la fin d'une époque. Je crois que le 3 était pas mal non plus, mais il était pas non plus révolutionnaire par rapport au 2, donc c'est pour ça que j'ai sorti le 2 qui
était un des premiers jeux PlayStation 2, un des tout premiers jeux, je me rappelle, qui était intéressant sur PS2 parce que les débuts étaient pas, c'était pas la fête hein. Et
il a essuyé les plâtres, j'imagine, du coup.
Marius,
puisqu'on est dans les, qu'on s'attarde un petit peu dans les jeux qu'on ne citera pas, je ne citerai pas Wolfenstein 3D, qui était pour moi, qui est mon Doom, c'est ma première claque de jeu vidéo de fou. Ouais. Où tu te dis, mais putain, je suis où, c'est le futur, c'est dingue. Et en plus, il y a Hitler robot, et puis il y a des horribles chiens, et puis regarde le personnage quand tu meurs, machin, il y a le visage qui est plein de sang, c'est ouf, complètement dingue, ça réagit absolument à tout. C'était magique.
30 ans, là, 30 ans.
Ouais.
Ouais, on est toujours. Ouais.
Le jeu a 30 ans. Ouais.
Et puis, non, mais il y a un moment, ça va, quoi, GoldenEye. Stop. Ouais. C'est un jeu que j'ai joué chez mes parents, que j'ai déménagé, qui m'a accompagné avec moi avec la N64 dans mes déménagements, avec qui j'ai joué avec plusieurs générations de potes. J'ai raté des cours à cause de GoldenEye parce qu'on se marrait trop et que franchement, retourner en cours l'après-midi, bof, quoi, tu vois. Et non, c'était
pas. Ouais, on va pas arrêter là.
Surcoté, aller en cours l'après-midi.
C'était parfait. Puis ton jeu, ouais, le jeu, pour moi, Perfect Dark était une continuation de GoldenEye et, avec un solo de ouf. Et, c'était génial.
Cool. Moi, pour ma part, j'ai hésité, mais en fait, finalement, je me suis rappelé un jeu sur lequel j'ai joué quand même assez longtemps et je me suis vraiment plongé dedans et qui est en plus un classique pour moi, c'est Battlefield 1942. Donc, sorti en 2002, il y a 20 ans, Battlefield 1942, le premier de la série des Battlefield, connu parce que c'était le jeu. Alors, il était prévu, je crois, pour être jouable jusqu'à 64 joueurs, mais dans les faits, c'était plutôt 16 contre 16, 32. Et d'une part, le jeu était incroyable, enfin, des parties de dingue, c'était fou avec les avions, il y avait plein de choses à l'époque en 2002. Ça a été vraiment, c'était vraiment une claque. Et en plus, vu que je crois que le Battlefield suivant, c'est 2004, c'est Vietnam, mais le vrai Battlefield suivant, c'est 2005. Donc il y a eu 3 ans finalement de Battlefield 1942 et c'est les mods. Et moi, je jouais énormément au mode de Battlefield 1942, notamment, je crois, un mode Star Wars. Je sais plus comment il s'appelle.
Chose,
et il y avait un mode Star Wars pour Battlefield 1942. Il y avait plein de modes. J'avais joué, à 4 ou 5 modes sur le jeu. Il y avait un mode guerre moderne parce que c'était le jeu original. C'était et en fait, il y avait la scène du modding sur Battlefield 1942 était incroyable. Le jeu Star Wars, c'était ouf. Tu prenais le contrôle des bipodes, enfin tout le système aérien, tout le système, tout ça, tout était présent en mode Star Wars. Tu jouais dans la neige, enfin voilà, il y avait vraiment, c'était super impressionnant et je m'éclatais.
Il y avait ennemi à l'époque, t'avais aussi Enemy Territory qui était en face aussi. Hein. Enemy Territory, le Wolfenstein en fait du coup qui cartonnait aussi dans le même. Je crois que c'est les mêmes époques, il me semble à peu près. Hein.
Mais pour le coup, c'est peut-être la première et la dernière fois où je me suis vraiment impliqué dans un FPS multi, en ligne, où je me branchais, où je cherchais des serveurs, et puis j'y allais, et puis je passais du temps là-dessus. Et vraiment, c'était une super expérience que j'ai pas retrouvée, ni avec les Battlefield suivants, ni avec une version beaucoup... Parce que quand tu joues en 16 contre 16, c'est peut-être un peu plus tactique que les deathmatch que tu peux trouver. Si, j'ai retrouvé un peu ça dans PUBG après, parce que cette temporalité de jeu. Mais voilà, Battlefield 1942, de mon côté, dans les souvenirs. Voilà, écoutez, on se retrouve demain, on vous a prévenu, vous l'avez peut-être compris en intro, c'est une longue émission avec plein de choses à dire. Et puis voilà, on se retrouve donc demain sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Ciao. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.